Voici la minute du droit. La minute du droit, c'est un programme d'éducation aux droits humains. La minute du droit, c'est un programme d'information et de sensibilisation aux droits et obligations des justiciables lors des différentes phases de la procédure pénale au Cameroun. C'est un programme radiophonique interactif réalisé avec l'appui financier du gouvernement du Canada par l'entremise de Affaires Globales Canada et l'appui technique de l'ONG internationale suisse International Bridges to Justice. La Minute du Droit, c'est un programme animé par Yvon Mabofé, consultant international en droit de l'homme, avec la participation des professionnels du droit à l'instar de Kabra Libi, journaliste, juriste internationaliste et expert en droit de l'homme. Sa Majesté Joseph Raoul Macondor, juriste et expert en droit de l'homme. Le programme bénéficie également de la participation des magistrats, avocats, enseignants d'université et autres acteurs de la société civile. La Minute du Droit, c'est tous les mardis et jeudis de 9h à 9h30 sur Radio Campus UY2. La Minute du Droit, c'est le droit à votre portée, un programme au service du droit et du développement.
Mesdames et messieurs, chers auditeurs de Radio Campus, bonjour et soyez une fois de plus les bienvenus à ce programme radiophonique de promotion et de prévention contre les abus et violations des droits humains intitulé La Minute du Droit. La Minute du Droit, disais-je, est un espace d'information et de sensibilisation sur vos droits fondamentaux d'une part, mais c'est avant tout un cadre de dénonciation des différents abus et violations des droits humains commis par certaines autorités lors des différentes phases de la procédure pénale au Cameroun. C'est un programme qui bénéficie des conseils, appuis et coaching de nos experts identifiés au sein du vivier des experts qui composent la chaîne judiciaire. Ce matin, pour nous accompagner, nous aurons encore, pour le grand plaisir de nos auditeurs, Kabra Libi et Sa Majesté Joseph Raoul Macondo. En attendant l'arrivée de Sa Majesté Joseph Raoul Macondo, qui sera là d'une minute à l'autre, je vais me tourner vers Kabra Libi. Kabra, bonjour.
Bonjour Yvon, bonjour à nos nombreux auditeurs. Je dis nombreux parce que les retours que nous avons sont plutôt encourageants. Vous savez, de tels programmes sont initiés pour assister ceux qui entendent parler généralement de ces questions de façon lointaine ou aérienne. Et lorsque les destinataires de notre message se montrent plutôt intéressés par l'afflux ou le flux des questions qui nous parviennent, nous nous disons ben, tant mieux, l'idée a été bonne d'initier cela.
Merci Kabral. Chers auditeurs, avant d'examiner notre nouvelle thématique sur l'interrogatoire ou l'audition, après celle liée à l'arrestation que nous avons examinée bien évidemment la semaine dernière, nous allons souffler le temps d'une courte pause musicale, puis revenir juste après. Thank you. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, nous retournons, n'est-ce pas, en studio. Et je rappelle déjà aux différents auditeurs que vous pouvez interagir, hein, vous pouvez communiquer directement avec nos experts en appelant au numéro suivant 653 81 19 18 ou au 242 00 65 38, je rappelle, 653 81 19 18, 242 00 65 38, ou alors nous envoyer des SMS au 655 44 60 92, 655 44 60 92, ou au 673 68 92 44, 673 68 92 44. Merci. Cabral Libi, la semaine dernière déjà, nous avons examiné avec Sa Majesté Joseph Raoul Makonda une thématique très importante, notamment l'arrestation. Nous avons examiné tous les contours de l'arrestation et nous avons aussi indiqué que l'arrestation était juridiquement encadrée, notamment dans le nouveau code de procédure pénale. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec l'interrogatoire ou l'audition, généralement, qui est une phase après qu'on ait arrêté quelqu'un. Parfois, on peut le conduire lorsque nous sommes au niveau de la phase policière de la procédure pénale. Les officiers de police judiciaire peuvent, n'est-ce pas, lorsqu'ils le conduisent au niveau des différents commissariats ou bien une unité de police, on peut procéder déjà à une audition. Ou encore, lorsque nous sommes au niveau du juge d'instruction, parfois, il y a bien évidemment des auditions à ce niveau-là. Alors, moi, je m'en vais vous poser directement la première question. C'est quoi l'audition? C'est quoi l'interrogatoire? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur?
Alors, l'audition, comme tu viens de le dire, est un élément de l'enquête. Un élément qui est une phase qui concourt à l'éclosion de la vérité. Alors, interrogatoire comme audition, ce sont d'abord des mots français avant d'être des termes juridiques. L'audition, auditionner quelqu'un, c'est l'écouter. L'interrogatoire, c'est un exercice qui consiste à interroger. Alors, on auditionne qui? On interroge qui? La personne qui a déjà été arrêtée dans les conditions que nous avons évoquées précédemment, je pense dans les deux premières émissions. Alors, lorsqu'on vous a arrêté, que ce soit au niveau préliminaire, parce que l'enquête en question, la procédure, ou si on veut, oui, mais c'est la procédure pénale, a des étapes que nous avons déjà évoquées, on y reviendra certainement. Il y a l'enquête préliminaire. L'enquête préliminaire, c'est la phase qui concerne la police judiciaire, l'enquête de police. Lorsque vous êtes arrêté, conduit à la gendarmerie ou au commissariat, vous faites l'objet en ce moment-là d'une enquête préliminaire. Et on doit vous auditionner, on doit vous interroger pour que vous donniez votre version des faits. Et tout ce qui est dit est consigné dans un procès verbal. Et on l'a dit encore la dernière fois, dès cet instant-là, vous n'êtes même pas obligé de parler. On prenait l'exemple des films américains la dernière fois, un film policier, où chaque fois qu'on vous arrête, eh bien, l'officier qui vous arrête ou l'agent qui vous arrête vous dit toujours, vous avez le droit de garder le silence parce que tout ce que vous allez dire dès lors que vous êtes arrêté peut être retenu contre vous. Alors, comme c'est des exercices qui engagent votre liberté, qui engagent votre avenir, il est toujours bien de ceux, et vous avez le droit, c'est ainsi que on l'a évoqué la dernière fois, de vous faire assister par un avocat qui, le cas échéant, va donc vous conseiller et va vous dire voici comment il faut répondre. Et il va d'ailleurs veiller aussi à ce que l'interrogatoire ou l'audition se fasse dans la régularité. Parce qu'il faut préciser que le code de procédure pénale encadre juridiquement l'interrogatoire, l'audition. En fait, c'est deux termes qui s'emploient de façon synonymique. Donc, c'est encadré, je vous l'ai dit. Donc, auditionner quelqu'un, c'est l'écouter. Interroger quelqu'un, c'est l'écouter. Lui poser des questions en rapport avec l'objet de son arrestation, afin qu'il s'en explique, afin qu'il donne sa version des faits, en somme, afin qu'il se défende.
Très bien. Merci, Cabral. Alors, je vous ai entendu tout à l'heure. Vous avez dit que l'interrogatoire ou l'audition était juridiquement encadré. Mmh. Alors, j'aimerais savoir, est-ce à dire que pour la personne auditionnée ou encore pour la personne qui auditionne, il y a des intérêts différents? C'est-à-dire que la personne qui auditionne, quel est son intérêt d'auditionner, qu'est-ce qu'il recherche? Vous l'avez certainement évoqué en introduction. Et la personne qu'on auditionne, pourquoi doit-elle se plier à cette procédure?
La personne qu'on auditionne, celui qui auditionne parce qu'il cherche la vérité. Il veut avoir des éléments à charge ou à décharge. Les éléments à charge, c'est les éléments qui vous accablent. Les éléments à décharge sont ceux qui vous disculpent, ceux qui vous affranchissent. Donc, le policier, et je l'ai dit tout à l'heure, ça se fait à deux niveaux, parce qu'il faut savoir que la procédure pénale, je ne cesse de le dire, c'est à plusieurs étapes. C'est d'abord l'enquête préliminaire, en fait, ensuite l'instruction, c'est-à-dire lorsque la police a fini son travail, elle vous envoie chez le juge d'instruction, qui lui-même aussi vous auditionne à nouveau, vous interroge à nouveau, et pour se donner les moyens de faire éclore la vérité. Donc, celui qui vous auditionne, eh bien, il vous pose simplement des questions pour que la vérité soit faite sur l'objet de votre arrestation. Il veut généralement, et c'est pour ça qu'il faut se défendre, parce que lui, ce qu'il cherche, c'est les éléments qui vont sous-tendre la poursuite de l'affaire, c'est-à-dire les éléments qui permettront de vous faire condamner, par exemple. Donc, vous devez vous défendre, puisque vous êtes arrêté, vous devez vous défendre. Donc, lui, il cherche simplement des éléments qui vont sous-tendre ou soutenir ou conforter l'initiative de votre arrestation. Parce que sinon, on vous aura arrêté pour rien. Donc, si déjà on est venu vous arrêter, c'est qu'il y a évidemment une présomption d'innocence, mais qu'il y a un certain nombre d'indices, un certain nombre d'éléments qui laissent penser que vous pourriez être concerné par l'infraction qui a déclenché tout cela. Donc, lorsque vous êtes à la police, la police, elle veut s'assurer qu'elle a le droit de vous arrêter. Elle veut s'assurer que l'arrestation est irrégulière et que lorsque le dossier va se poursuivre, les éléments qui ont été retenus seront suffisamment solides pour justifier que vous soyez jugé par la suite.
Tout à fait. Merci, Cabral. Nous avons un SMS en provenance de... je vois M. Vondor de Jouvence. Il dit « Bonjour à vous. S'il vous plaît, à partir de quel moment une personne arrêtée peut-elle être déférée devant le tribunal ?»
Alors, je pense qu'il évoque là les questions de délai. On a évoqué la dernière fois les délais de garde à vue. Et nous avons bien dit ici dans ce studio qu'au niveau de la police, la garde à vue judiciaire ne pouvait excéder 72 heures. Au bout de ces 72 heures, vous devez être déféré. C'est le terme employé. Vous devez être déféré au parquet pour la poursuite de l'enquête. Et à ce niveau-là également, on peut délivrer, vous pouvez faire l'objet d'une détention, ce qu'on appelle la détention préventive, qui elle-même est encadrée par des délais que nous avons évoqués la dernière fois. Donc, pour la question de M. Vondo, de Jouvence, lorsque vous êtes arrêté par la police, ça s'appelle la garde à vue. Et cette garde à vue ne peut excéder 72 heures. Dès lors qu'elle a excédé ce temps-là, ça devient irrégulier et vous êtes fondé vous-même d'exercer une action contre cela.
Merci Cabral. Je rappelle aux différents auditeurs que vous avez la possibilité directement d'interagir avec nous au 653-81-19-18. 653-91-19-18 ou au 242-00-65-38 ou encore nous envoyer des SMS comme M. Vendor de Jouvence au 655-44-60-92 655-44-60-92 ou au 673-68-92-44 673-68-92-44. Alors Cabral, je reviens à vous. Généralement, je voudrais poser la question directement, mais je vais prendre un petit exemple. Au quartier, dans la plupart des cas, quelqu'un vous dit « J'ai un cousin qui a été arrêté, puis il a été conduit dans un commissariat de la place. » Et là-bas, on a procédé au début de l'interrogatoire, il ne voulait pas parler. Après, finalement, ça a débouché sur autre chose. On l'a bastonné, il était obligé sous la contrainte, il était obligé sous la torture de pouvoir avouer et dire des choses. En réalité, il indique à la fin que ces choses-là, il ne se reconnaît pas, c'est parce qu'il était torturé. Est-ce que on doit craindre que l'interrogatoire ou l'audition peut, dans la plupart des cas, déboucher à ce genre d'actes ou d'abus ou de violations des droits humains?
Il s'agit effectivement, dans les circonstances que vous évoquez, de graves violations. L'article 122 du Code de procédure pénale est clair. Le suspect ne sera point soumis à la contrainte physique ou mentale, à la torture, à la violence, à la menace ou tout autre moyen de pression, à la tromperie, à des manœuvres insidieuses, à des suggestions fallacieuses, interrogatoires prolongés, hypnose, administration des drogues ou tout autre
on
procédé.
On va revenir à vous. On a quelqu'un en ligne. Un auditeur en ligne. Allô, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Vous êtes monsieur et vous appelez depuis où?
Je m'appelle monsieur Landi depuis Messamenongo.
Oui. Bonjour, monsieur Landi.
Oui, je voudrais savoir si l'autorité a le droit d'utiliser la torture pour, lors de l'interrogatoire. Si possible, utiliser la force. Et c'est dans quel cas que cela est possible? Parce qu'on voit généralement dans nos commissariats, c'est souvent des menaces et tout cela. Merci beaucoup.
Merci. Cabral?
C'est à cette question, effectivement, que nous étions en train de répondre. C'est interdit. Et là encore, je crois, c'est une dérive qui est vulgarisée par les films. Par les films américains. Nous voyons généralement dans les séries
24 heures chrono,
vous voyez comment on attrape quelqu'un et puis on le martyrise copieusement dans un sous-sol ou dans un terrain vague pour qu'il passe aux aveux. C'est formellement interdit. C'est formellement interdit par la Déclaration universelle des droits de l'homme, par le pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi de suite. Tous les textes, il y a toute une batterie, il y a des textes sur la torture. Et le code de procédure pénale, j'étais en train de vous donner la substance de l'article 122 du code de procédure pénale, c'est absolument interdit. C'est d'ailleurs pour cela que nous disions tout à l'heure que chaque fois que vous avez fait l'objet d'une arrestation, ce qui est même conseillé, c'est de ne rien dire et de se faire assister. De ne rien dire. Parce que les phases d'audition, effectivement, peuvent se transformer, je dis bien peuvent, ce n'est pas toujours le cas, peuvent se transformer en des moments de torture. La torture n'est pas seulement physique, hein. Elle est parfois mentale, elle est parfois morale, elle est psychologique. C'est-à-dire que les propos qui peuvent vous être tenus par leur caractère allusif ou que sais-je encore. Moi, je me souviens une fois, j'ai été arrêté dans une affaire complètement rocambolesque. Et l'agent, qui est d'ailleurs aujourd'hui quelqu'un, on se croise de temps en temps, je le vois souvent dans la circulation, il me dit, écoutez, monsieur, c'est très grave ce dont on vous accuse. Si le dossier continue, vous allez voir, ça peut très mal se terminer pour vous. Vraiment, vous êtes quelqu'un qu'on respecte. Avouez, et puis c'est fini, c'est rien, et puis vous donnez de l'argent. Mais avec une placidité extraordinaire, je lui ai dit, mes chers amis, je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne sais pas de quoi tu parles. Donc, c'est de deux choses. D'abord, je ne me ferai auditionner qu'en présence de mon avocat. Et une fois que j'aurai été auditionné, je vous donne donc l'autorisation d'envoyer ce dossier où ça vous chante. Parce que ça ne m'intimide pas. Et puis, effectivement, ça s'est arrêté là. Donc, souvent, il y a des intimidations, il y a des menaces à peine voilées. Parfois, il y a des tortures physiques, carrément. Quel que soit l'acte que vous avez posé, il ne s'agit en aucun cas de vous torturer, ni physiquement, ni mentalement, ni même de vous faire consommer quoi que ce soit, parce qu'on peut vous donner une drogue. Parce qu'il ne faut pas oublier que tout ce que vous allez dire, et c'est ça qui est grave, tout ce que vous dites est consigné dans un PV. C'est d'ailleurs pour ça que le code de procédure pénale, lorsque vous avez fait l'objet, par exemple, d'une arrestation, disons flagrant délit ou que sais-je encore, ça peut être tumultueux, le code de procédure pénale oblige à l'agent qui doit vous auditionner de vous laisser d'abord un temps raisonnable, même pour vous reposer.
Tout à fait.
C'est-à-dire on ne peut pas vous avoir arrêté, on vous traîne dans un commissariat et dans les secondes qui suivent, on commence à vous interroger. Non, vous avez le droit de vous reposer d'abord, d'avoir tous vos esprits en place. Et une fois que vous êtes reposé, que vous êtes redevenu zen, pour parler prosaïquement, on peut donc commencer à vous interroger ou à vous auditionner. Et je le répète encore, vous avez droit à un avocat qui vous accompagne. Donc, évidemment, en aucun cas. Et dès que vous avez achevé l'audition, ben écoutez, on peut décider, selon les cas, de vous maintenir en garde à vue. On n'a pas le droit de venir vous auditionner dans votre cellule. On n'a pas le droit de venir vous sortir, je ne sais pas, 1h du matin. Vous savez, il y a des... C'est pour ça que je parle de torture psychologique tout à l'heure. Vous savez, on peut vous mettre dans une salle, il n'y a pas de lit, il n'y a rien. Et puis, à tout moment, on laisse la lumière et puis on perturbe votre sommeil. C'est-à-dire, on vous torture mentalement et on réussit à vous troubler complètement. Et parfois, vous voulez simplement sortir de cette torture-là. Et on vous dit, écoutez, avouez et puis on vous laisse. Même si vous avouez une chose que vous n'avez pas faite et même qu'on vous laisse... Mais par la suite, on se réserve le droit de vous poursuivre sur le fondement de l'aveu que vous avez fait. Et puis plus tard, vous ne viendrez pas dire que non. En fait, quand j'avouais, sauf si, effectivement, vous pouvez démontrer. Parce que si jamais, sous le coup de la torture, vous avez avoué des choses, ben, évidemment, vous vous réservez le droit d'attaquer ce procès verbal plus tard en précisant effectivement que vous avez été torturé. Et ben, il faudra en avoir apporté la preuve, évidemment.
Merci Cabral. Chers auditeurs, je rappelle que vous avez la possibilité, comme les précédents auditeurs, de nous appeler au 653 81 19 18, 653 81 19 18 ou au 242 00 65 38 ou encore nous envoyer des SMS au 655 44 60 92, 655 44 60 92. Cabral, je vais revenir sur l'article 122 du Code de procédure pénale qui dispose « Le suspect ne sera point soumis à la contrainte physique ou mentale, à la torture, à la violence, à la menace ou à tout autre moyen de pression, à la tromperie, à des manœuvres insidieuses, à des suggestions fallacieuses, interrogatoires prolongés, hypnose, administration des drogues ou tout autre procédé de nature à compromettre ou à réduire sa liberté d'action ou de décision, altérer sa mémoire ou son discernement. » Je vais m'arrêter sur deux éléments pour moi. J'aimerais comprendre. Lorsque le législateur indique, il dit « tout autre moyen de pression », qui apprécie les moyens de pression ? Est-ce que c'est la personne auditionnée ou interrogé, ou alors c'est son avocat? Est-ce que ça ne peut pas prêter à confusion? Est-ce que l'officier de police judiciaire qui mène l'interrogatoire peut dire que, pour moi, je ne pense pas que c'est une pression. Ce que j'étais en train de faire, je ne considérais pas ça comme une pression sur la personne qu'on auditionne, sur la personne que je suis en train d'auditionner. Qui apprécie, puisque le législateur, c'est un peu flou quand même, non?
Ben, c'est peut-être un peu flou, mais et c'est pour ça que ce point de sensibilisation est très important. Parce que les droits dont il s'agit ici, enfin, la protection dont il s'agit ici, bénéficie à qui ? À la personne qui est arrêtée. Et c'est elle qui doit, à un moment, estimer que les moyens qu'on utilise... Mais écoutez, monsieur Mabouffé, si on vous pose des questions, il y a une façon de poser des questions. Ben, si on vous pose une question, vous n'avez pas répondu, on vous pose une deuxième, au moment où vous voulez répondre à la deuxième, on vous pose une troisième, ben, vous êtes fondé de dire, écoutez, moi je ne réponds plus. Quand vous me posez une question, vous me laissez répondre. Ou alors, lorsque vous avez répondu à une question et qu'au moment de noter dans le procès verbal, on interprète votre réponse et puis on écrit autre chose, vous êtes fondé de dire stop. Donc, et votre avocat est là pour veiller à ce que l'interrogatoire ou l'audition soit raisonnable. Donc celui qui est juge de cela, eh bien, c'est vous, puisque vous avez le droit de vous arrêter à tout moment. Dès que vous estimez que l'interrogatoire n'est plus orthodoxe, vous dites, vous ne continuez plus. Et votre avocat est là. Et vous avez tout à fait le droit d'intenter une action. Vous savez, vous avez souvent entendu que les gens ont invalidé des juges d'instruction. Eh bien, demandez-vous toujours pourquoi on a souvent changé. Parce que vous avez même le droit de dénoncer. Parce que si vous estimez que celui qui vous interroge, eh bien, il n'est plus simplement mu par l'envie de faire éclore la vérité, mais absolument de vous accabler, eh bien, vous avez même le droit de le récuser. Ben, c'est pour cela que la réponse à votre question, elle est simple. Celui qui est juge du caractère irrégulier de l'interrogatoire, eh bien, c'est d'abord vous-même. L'interroger, c'est votre avocat qui sont fondés, les deux en tout cas, de mettre un terme à cela.
Alors, Donc, je reviens également sur l'autre détail. Je vois interrogatoire prolongé. Mmh. Ça ressemble à quoi ? Interrogatoire prolongé, audition prolongée. Est-ce que le législateur définit quand même un temps où il est spécifiquement mentionné que l'interrogatoire dure tel nombre de minutes ou d'heures ? Ou alors non. Il y a complètement un vide sur la précision ou alors sur l'appréciation temporelle et interrogatoire prolongé, c'est quoi ?
Le code de procédure pénale n'a pas limité le temps d'une audition. Non. Mais il y a en droit la notion de délai raisonnable qui a fait l'objet d'études en doctrine, droit administratif, droit privé, il y a droit international, il y a une abondante littérature là-dessus. L'interrogatoire, la durée de l'interrogatoire dépend aussi de la complexité de l'objet de l'interrogatoire. Vous savez, si on a, selon qu'on a affaire à un vol de banane ou qu'on a affaire à un détournement de fonds, par exemple, avec des sociétés écrans, avec beaucoup d'intermédiaires, et beaucoup de contorsions, évidemment, ça prendra plus de temps pour... vous savez, je voudrais prendre un cas d'actualité. Vous avez bien suivi récemment. Lorsque François Fillon, l'un des candidats à l'élection française, a reçu l'information qu'en mars, là, en mi-mars, il serait mis en examen. Alors, l'une des raisons pour laquelle il a crié au scandale, c'est qu'il a estimé que c'était trop rapide.
Le 15 mars, je crois.
Le 15. Il a estimé que c'était trop rapide, qu'après l'enquête préliminaire, ben, que le juge d'instruction veuille le mettre immédiatement en examen. Parce qu'effectivement, il a estimé qu'il fallait que le juge d'instruction prenne plus de temps pour s'assurer face à ce qu'on appelle, en fait, c'est d'ailleurs dans le code de procédure pénale, le cross-examination, c'est-à-dire qu'il prouve les éléments d'enquête qui lui ont été donnés par la police, en tout cas par l'enquête préliminaire.
Ils réunissent, comme vous avez dit, un certain nombre d'éléments à charge qui pourront...
Oui, bien sûr, évidemment, pour lui, c'est de bonne guerre. Lui, il veut que ça dure pour qu'entre-temps, il soit élu et que ça anesthésie la procédure. Mais effectivement, il y a que celui qui vous auditionne, selon la complexité de l'objet, la complexité du sujet, peut vous poser plusieurs questions, et même parfois des questions espiègles. On peut vous poser la même question de trois façons, pour essayer de relever un certain nombre d'indices qui traduisent la vérité. Mais si on commence à vous poser des questions superflues, des questions qui n'ont rien à voir avec l'objet de l'arrestation, qui n'ont rien à voir avec l'infraction, des questions sur votre vie privée, vous faites des questions complètement saugrenues, et que vous avez l'impression qu'en fait, on veut juste que ce soit long, peut-être pour vous fatiguer mentalement, que devenu fatigué, que vous baissiez la garde, que vous ne soyez plus en pleine possession de vos moyens mentaux et psychologiques pour répondre, ben vous avez tout à fait le droit de recuser cela. Donc, même celui qui vous pose des questions, il faut qu'il vous pose des questions. Et je l'ai dit tout à l'heure, vous avez le droit à un moment de dire que vous ne vous sentez pas bien, que vous pensez que vous n'êtes plus en mesure de répondre. Votre avocat peut effectivement demander la suspension de l'audition, quitte à ce que vous retrouviez vos moyens et que vous recommenciez. Mais l'interrogatoire prolongé, pour répondre à votre question, c'est cet interrogatoire qui repose sur des questions absolument superflues, qui n'ont rien à voir. Ou alors, on vous pose deux à trois questions et puis on vous laisse là. Dans une salle, c'est des choses qu'on a souvent vues. On vous laisse là dans une salle, vous restez longtemps là. Je vous parle des choses que j'ai un peu expérimentées. Hein. Je me souviens lors des grèves de 2005, ici même à l'Université de Yaoundé 1, où se trouve le studio de Radio Campus, j'avais été arrêté là devant l'INJS. Je marchais tranquillement, ma chose comme on dit, et puis une portière s'est ouverte, on m'a engouffré dedans. Et puis, je me suis retrouvé effectivement à la DGRE où je suis resté de longues heures dans une salle. Parfois, les gens viennent, ils font semblant de chercher quelque chose, ils sortent, ils repartent. Et puis, vous êtes là, encore que là, l'audition n'avait même pas encore commencé. Tout cela participe de quoi? De votre usure mentale.
Oui,
c'est qu'on veut d'abord vous déstabiliser mentalement et vous rendre vulnérable. Et c'est cet ordre de choses, effectivement, qui est reprouvé par le Code de procédure pénale.
Alors, est-ce que... Devons-nous assimiler, hein, tout à l'heure vous avez donné un exemple, est-ce qu'on peut assimiler cette méthode-là, cette méthode de pression douce, cette méthode de pression subtile, c'est-à-dire que une fois, quand vous commencez peut-être l'interrogatoire, l'officier de police judiciaire, là, il porte une autre carapace, au lieu d'être brutal, il vient et il dit, jeune homme, vous savez, je vous aime beaucoup, je vous apprécie. Moi, je suis croyant. Quand je vous vois comme ça, ça me dérange, ça me fait tellement mal. Alors, tout ce que je vais vous demander, vous savez, c'est très facile. Acceptez tout simplement, reconnaissez les faits, on va vous libérer. Et puis, ça va finir. Et puis, vous allez continuer. Il y a vos parents qui vous attendent. Est-ce qu'on peut assimiler cela à une méthode de pression plus subtile avec quelque part derrière une intention inavouée?
Bien sûr. Bien sûr, c'est pour ça, et ça nous ramène à la question que vous avez posée tout à l'heure, c'est qui est juge de cela? Mais c'est vous-même, vous savez bien que les extrêmes, avec les extrêmes on peut nous tirer des choses, on peut nous tirer les verres du nez. Par la brutalité, on peut y parvenir, par la flatterie de votre ego ou par l'adoucissement de votre état d'esprit, on peut vous tirer des choses. C'est-à-dire, effectivement, le juge d'instruction, parce que l'audition, on l'a dit, se fait à deux niveaux. Ça se fait au niveau préliminaire de police. Ça peut également se faire devant le juge d'instruction au niveau de la phase d'instruction de votre dossier. Il y a également l'interrogatoire ou l'audition. Donc, effectivement, celui qui vous auditionne, lui, c'est pour ça que je vous ai dit, il a un objectif à atteindre. Lui, il veut asseoir sa procédure sur un certain nombre de preuves irréfutables. Et il faut qu'il tire de vous un certain nombre d'éléments, soit en termes d'aveux ou alors en termes d'indices, qui conforteraient les charges qui sont ou qui seraient retenues contre vous. Donc, il peut effectivement procéder soit par la brutalité, ce qui est en ce moment-là facilement recusable, parce que la brutalité, on peut encore la démontrer facilement. Si vous avez subi des sévices corporels, par exemple, par une examination médicale, on peut s'en rendre compte. Mais il peut également procéder d'une autre façon. Il vous endort, pour dire les choses simplement. Donc, parce qu'effectivement, quand vous êtes en audition, vous êtes sur vos gardes, évidemment. Donc, vous vous dites, vous êtes préparé, vous devez vous défendre. Mais il peut arriver, il passe par un subterfuge, par une méthode tout à fait subtile, où il vous met en confiance, il vous rassure d'ailleurs qu'il a toutes les bonnes intentions à votre égard et qu'il souhaite même, si ça ne dépendait que de lui, de vous relâcher que vous rentriez chez vous et que bon, s'il doit vous auditionner même, c'est juste parce que bon, il faut qu'il fasse son travail. Et bien faites attention, il est en train de vous avoir. Parce qu'en ce moment-là, vous vous retrouveriez en train de livrer un certain nombre d'indices parce que vous croyez que celui qui est en face de vous est votre ami. Ben non, il n'est pas votre ami, il fait son travail, lui. Il est dans le créneau de la justice. Son travail à lui, c'est de faire éclore la vérité. Et la vérité qui va vous accabler. Donc, en aucun cas, vous ne devez vous laisser avoir ni par la brutalité, ni par la flatterie. Vous devez simplement rester droit sur vos bottes, ou dans vos bottes, comme on dit. Vous préparez à répondre. C'est une audition, quelle que soit la forme qui est adoptée, brutale ou douce, ça reste une audition. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est toujours bien de se faire conseiller. Parce que l'avocat qui, lui, est là à côté de vous, il s'est détecté des techniques de cette nature-là et vous mettra en garde contre l'apparente amicalité ou amitié que celui qui vous auditionne est en train d'instaurer entre vous.
Alors, Cabral, nous sommes arrivés au terme de cette autre édition. Ça va toujours très vite, ces 30 minutes. Est-ce que nous avons un dernier SMS? Peut-être on va le lire ou alors certainement jeudi prochain. Mais j'aimerais revenir pour terminer avec la phase des auditions ou des interrogatoires. Alors, est-ce qu'on peut avoir une contradiction de procès, de mention au niveau des procès-verbaux? Les procès-verbaux peuvent-ils être contradictoires? C'est-à-dire, vous avez énuméré tout à l'heure deux phases au niveau des auditions, c'est-à-dire à la phase préliminaire avec le procès-verbal de l'officier de police judiciaire et avec les procès-verbaux qui sont faits au niveau du juge d'instruction. Est-ce qu'on peut avoir une sorte de contradiction, tout simplement due à la subtilité des uns ou des autres? C'est-à-dire qu'à la phase préliminaire, on avait quelqu'un qui était très doux ou alors qui était très brutal. et les éléments qu'il a mentionnés dans son procès verbal, quand on arrive au niveau du juge d'instruction, le juge d'instruction, lorsqu'il fait peut-être lecture de certains éléments à la personne auditionnée, il dit « Ah, moi, franchement, là-bas, je ne reconnais pas, c'est parce qu'il était en train de faire telle ou telle chose. » Et donc, le juge d'instruction, à la fin, est-ce qu'au niveau du juge d'instruction, l'autre procès verbal peut être en contradiction avec le premier ?
Oui, il peut avoir des contradictions. D'abord, dans l'hypothèse évidente, vous pouvez nier à la phase d'enquête préliminaire et puis avouer en phase d'instruction. Dans ce cas-là, il y a bien une contradiction entre le déni d'avant et l'aveu d'après. On peut également inverser. C'est-à-dire que vous pouvez avoir avoué en enquête préliminaire et nier en phase d'instruction. Mais évidemment, dans ce cas-là, vous vous mettez en danger. Parce que si l'aveu qu'on a tiré de vous en phase préliminaire a été le fait, par exemple, d'une torture ou d'une menace ou que sais-je encore, évidemment, en ce moment-là, ou alors on a tiré de vous un aveu de façon espiègle en vous trompant, c'est pour ça qu'on a parlé tout à l'heure de tromperie dans l'article 122. Parce qu'on peut vous avoir trompé pour vous faire avouer. En préliminaire, on peut vous avoir dit, écoutez, dites que vous avez fait et puis on vous libère. Et alors que vous ne l'avez pas fait. Et vous, naïvement, vous dites, oui, je reconnais que je l'ai fait, sauf qu'on ne vous libère pas, on vous envoie en instruction. Mais là-bas, une fois que vous vous serez rendu compte que, ben, écoutez, ce monsieur, il m'a fait avouer des choses parce qu'il m'a promis de me libérer, moi, je ne voulais pas les problèmes. Ce d'autant plus que, et c'est pour ça qu'il faut veiller à ce que tout ce qui se fait en audition soit contenu dans le procès verbal. Parce que le procès verbal, vous le signez. Tout ce qu'on dit là, après avoir bavardé, après l'audition, tout ce qu'on s'est dit est consigné dans un document qu'on appelle procès-verbal. Et au fur et à mesure que le dossier continue, c'est ce document qui fait foi. Et c'est pour ça que vous-même, la personne auditionnée, vous devez le viser. Si vous ne l'avez pas visé, il ne fait pas foi. Et avant de le viser, vous devez l'avoir lu attentivement. Vous rassurez qu'il est la traduction fidèle de l'échange que vous venez d'avoir en audition. Ça veut dire que si l'officier ou l'agent vous a dit « Monsieur, si vous dites que vous avez fait, on vous libère. » Il faut que ce soit mentionné dans le procès verbal que l'agent en question a dit qu'il vous libérerait et c'est dans ce cas que vous avez avoué. Dans ce cas, quand vous allez en instruction, ben, sur le fondement de ce PV, vous direz au juge d'instruction ben, « Écoutez, il m'avait dit, et c'est noté là, qu'il me libérerait si j'avouais. Si j'avoue. Bon, maintenant que je ne suis pas libéré, écoutez, c'était une tromperie. Et d'ailleurs, j'avais répondu parce que j'étais trompé. Je me rebiffe. Je n'ai aucune envie d'avouer quoi que ce soit, puisque de toute façon, je ne serai pas libéré. Et c'est tout à fait votre droit.
Merci, Cabral. Mesdames et messieurs, chers auditeurs et auditrices de Radio Campus, nous sommes arrivés au terme de ce programme qui est toujours très intéressant, palpitant, au point même où, en réalité, on grignote souvent quelques minutes. Mais j'aimerais tout simplement vous dire que vous pouvez réécouter ce programme ce mardi à 20h. Là, il sera rediffusé à 20h et mercredi à 14h. Et je voudrais également, mesdames et messieurs, chers auditeurs, vous rappeler que jeudi prochain, nous serons là à la même heure et nous aurons 30 minutes également de partage avec vous. Et nous allons poursuivre avec les différents droits qui sont accordés à la personne interrogée ou auditionnée. Merci Cabral.
Ben, c'est moi qui te remercie. Je remercie nos auditeurs qui nous reçoivent et qui nous écoutent. J'espère que nous faisons œuvre utile.
À jeudi prochain, s'il plaît à Dieu, chers auditeurs. Et d'ici là, je souhaite également une très bonne fête à toutes les dames, à toutes les mamans du Cameroun et dans le monde entier. Merci.